Afrique. Bonjour le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudia. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présidé mercredi à Abidjan au dernier conseil des ministres du gouvernement du premier ministre récemment décédé Ahmed Bakayoko, promettant la formation rapide d'une nouvelle équipe. Eric Manirakiza fera le point. Côte d'Ivoire toujours, le procès d'un ancien chef de guerre accusé d'assassinat massif dans l'ouest du pays en 2011 s'est ouvert mercredi devant la cour d'assises d'Abidjan, a constaté un journaliste de l'AFP. Amadé Ouérémi, 57 ans, surnommé le Seigneur et qui dément ses accusations, a été arrêté en 2013 par un commando militaire. Selon l'acte d'accusation lu à l'ouverture du procès, les tueries du 28 mars 2011 dans le quartier Carrefour de la ville de Dieukoué ont été commises par les hommes d'Ouérémi. Au Sénégal, la justice a remis mercredi en liberté provisoire 3 activistes arrêtés pour organisation d'un mouvement insurrectionnel en lien avec la contestation soulevée par l'enquête pour viol présumé contre l'opposant Ousmane Sonko, a indiqué le parquet. Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Hassan Diouf sont libérés, alors que différents acteurs politiques mais aussi religieux s'emploient à la décrispation après les troubles de début mars. Ces libérations devraient préluder à celles d'une trentaine d'autres personnes arrêtées à Dakar et ailleurs dans le même contexte, anticipe la presse et les avocats. En République centrafricaine, l'opposant Anissé Georges Dologuele, arrivé deuxième à la présidentielle de fin décembre, a été empêché de quitter son pays mercredi, a assuré son porte-parole. Selon Christian Gazambiti, M. Dologuele devait se rendre à Paris pour raisons médicales, mais n'avait pas une autorisation de sortie du territoire du ministère de l'Intérieur. Le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagi, explique cette exigence par la situation d'état d'urgence actuelle et par des enquêtes dans le cadre de la tentative de coup d'État et des mesures prises qui visent en particulier les personnalités politiques, sans préciser si c'était le cas pour M. Dologuele. La plupart des pays d'Afrique ont mis en place moins de mesures de restriction pendant la deuxième vague de COVID-19, pourtant marquée par 30% de contamination en plus, montre l'une des rares études consacrées à l'impact de la pandémie sur ce continent. Entre mi-février et fin décembre 2020, 2,8 millions de cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés dans l'ensemble des pays de l'Union africaine, soit seulement 3% du total mondial, et 65 602 décès ont été comptabilisés, calcule cette étude publiée jeudi dans la revue britannique The Lancet. Le vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca est efficace à 76% contre les cas symptomatiques, a annoncé jeudi le laboratoire britannico-suédois dans un communiqué après une mise à jour de ses données issues d'un essai clinique aux États-Unis, au Pérou et au Chili. Le Brésil a passé mercredi la barre des 300 000 morts du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, au moment où le pays traverse sa pire période en un an de pandémie. Les services de soins intensifs sont partout au bord du point de rupture et leur personnel à la limite de l'épuisement. L'Union européenne a décidé mercredi de placer sous haute surveillance les exportations de vaccins anti-Covid produits sur son sol, afin d'empêcher la fuite vers d'autres pays, en particulier le Royaume-Uni, des doses nécessaires aux Européens confrontés à la troisième vague de la pandémie. La Corée du Nord a lancé jeudi 2 missiles dans la mer du Japon et Tokyo a déclaré qu'il s'agissait de missiles balistiques dont le tir constitue une violation de résolution de l'ONU. Le lancement d'engins de ce type, s'il est confirmé, constituerait un défi pour la nouvelle administration du président américain Joe Biden. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC en votre compagnie, Idrissa Seydoudia.
La suite de nos informations, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis hier la formation rapide d'un nouveau gouvernement. C'était lors du dernier conseil des ministres de l'équipe du défunt premier ministre Ahmed Bakayoko. Les détails avec Eric Manirakiza.
Je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement, a déclaré M. Ouattara. Il a précisé que la session d'hier est le dernier conseil des ministres du gouvernement Bakayoko. Actuellement, l'ex-secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, assure l'intérim. Tene Birahima Ouattara, frère cadet du président, assure temporairement la charge de ministre de la Défense, qu'occupait également M. Bakayoko. Depuis 2017, les gouvernements ivoiriens ont été dirigés par deux premiers ministres décédés à 8 mois d'intervalle des suites de maladies. Amadou Gon Coulibaly, mort à 62 ans le 8 juillet 2020, puis Ahmed Bakayoko, mort à 56 ans le 10 mars dernier. M. Ouattara s'est également félicité du bon déroulement des législatives du 6 mars avec la participation de tous les partis politiques. Il a annoncé la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale le 1er avril et celle du Sénat le 13 avril prochain.
Au Cameroun, les pasteurs qui nient l'existence du Covid-19 seront désormais interpellés. Cette annonce a été faite hier dans un communiqué du ministre de l'Administration territoriale. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
La sortie musclée du ministre de l'Administration territoriale fait suite à ce qu'il qualifie de dérive de certaines églises dites de réveil en rapport avec la propagation du Covid-19. Au nombre de ces dérives, le ministre Paul Atangandji mentionne l'interdiction faite par certains pasteurs à leurs fidèles de porter le masque, le rejet du protocole de traitement validé par le gouvernement, l'administration des traitements contre le Covid-19 à base d'eau bénite dans ses officines, ou encore l'élévation des prières pour se prémunir du nouveau coronavirus. Des agissements qui vont à l'encontre des mesures barrières édictées par le gouvernement sur l'instruction du président de la République, souligne le communiqué. Le gouvernement durcit le ton. Désormais, de telles églises ne vont plus poursuivre leurs activités et leurs chefs seront interpellés puis conduits devant les juridictions compétentes. C'est une grave injustice, comme d'habitude, contre les églises de réveil. Dans les rues, les bars bondés et marchés du pays, les Camerounais ne respectent pas les mesures barrières et cela ne dérange personne, a confié sous anonymat à VOA Afrique un pasteur d'une église dite de réveil. Pour sa part, le révérend docteur Alain Ruben Gouet, président régional pour le centre de la Fédération des églises évangéliques pentecôtistes, a dans une courte vidéo encouragé les membres au respect des mesures barrières. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le Kenya a réitéré hier son intention de fermer définitivement deux camps des réfugiés qui accueillent plus de 400 000 personnes. Cette fois-ci, Nairobi affirme qu'il n'y a plus de place pour la négociation. Michel Joseph.
Fred Matiang'i, ministre kényan de l'Intérieur, a demandé à l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés de proposer d'ici 14 jours un plan pour la fermeture des camps de Kakuma et de Dadaab, ouverts depuis presque 30 ans. Aucune date n'a été proposée pour ces fermetures. Le HCR a indiqué que les autorités kényennes l'ont informé de leur intention de fermer ces camps à brève échéance. Le ministre de l'Intérieur a donné un ultimatum de 2 semaines au HCR pour mettre au point une feuille de route pour la fermeture de ces camps en déclarant qu'il n'y avait pas de place pour des négociations supplémentaires. Les autorités kényennes invoquent des raisons de sécurité. Elles avaient déjà accusé les islamistes Shebab d'avoir organisé les attaques de 2013 contre le centre commercial Westgate à Nairobi et contre l'université de Garissa en 2015. Nairobi avait annoncé son intention de fermer le camp de Dadaab en 2016, mais la Haute Cour de justice kényenne avait rejeté ce projet. En 2019, le gouvernement avait encore projeté de fermer le camp de Dadaab 2 mois après l'attaque d'un complexe hôtelier à Nairobi et cette intention n'a pas été suivie d'effet.
La Minute Éco, John Linden.
Au Burkina Faso, l'Office national des télécommunications, contrôlé à 61% par le groupe Maroc Télécom, a réalisé un bénéfice de 31 milliards de francs CFA en 2020, soit une progression de 3,2% par rapport à l'exercice 2019, affirment ses dirigeants. Au Cameroun, Activa Assurance, avec l'appui de la Société financière internationale, met à la disposition des femmes entrepreneurs deux nouvelles solutions d'assurance avec pour objectif de couvrir plus d'un million de femmes en 2022. Cette solution permettra notamment d'épargner et de réaliser des projets de création d'entreprises et une couverture santé destinée aux femmes regroupées en coopérative. La valeur du Bitcoin continue de monter, frôlant les 57 000 dollars, profitant de l'annonce par Elon Musk que les achats de Tesla pourraient désormais être effectués avec la première crypto-monnaie aux États-Unis. La possibilité de payer en Bitcoin sera disponible en dehors des États-Unis plus tard dans l'année, a-t-il ajouté.
Les sports avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. Éliminatoire de la CAN 2021 au Cameroun. Les étalons du Burkina Faso ont arraché leur qualification avec un match nul de 0-0 face aux Cranes de l'Ouganda avec 9 points. Et en tête du groupe B, le Burkina Faso est sûr de terminer les éliminatoires parmi les deux premiers, quels que soient les résultats de la dernière journée, le 29 mars. Pour le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, le plus dur était cette qualification.
Ça a été un match très difficile, et comme vous l'avez constaté, un match qui a été disputé de bout en bout, et parce que un match très tactique, parce que nous sommes venus ici avec la ferme intention en tout cas de faire un résultat, et parce que nous savions que, également qu'il y a un match qui nous reste, et nous allons aller parachever l'œuvre en tout cas chez nous au pays.
Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso, des propos recueillis par Kader Traoré. La Guinée aussi a obtenu hier soir son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sili National a dominé à domicile 1-0 le Mali, déjà qualifié. Rappelons que dans le même groupe, le Tchad a été disqualifié par la Confédération africaine de football avant les deux derniers matchs. Et de fait, le Mali et la Namibie ont eu chacun un match gagné, 3-0. Et dans le groupe K, les Éthiopiens ont créé la surprise en écrasant à domicile Madagascar 4-0 et prennent donc provisoirement la première place en attendant la rencontre entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Ce sera vendredi. Et puis un vent de folie qui souffle sur les Comores qui peuvent décrocher ce jeudi leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un rêve qui récompenserait un gigantesque travail pour monter une équipe portée par sa diaspora. Il suffira donc d'un point en deux matchs, pourquoi pas dès ce soir contre le Togo au stade Malouzini, au nord de la capitale Moroni, pour que ce pays de 850 000 habitants, affilié seulement en 2005 à la FIFA, atteigne sa première grande compétition. En raison de la pandémie pour Comores-Togo, ce soir, un millier de personnes ont été autorisées au stade, joueurs et autorités inclus. Et pour terminer, ici aux États-Unis, la star américaine du football féminin, Megan Rapinoe, était hier au Congrès, puis à la Maison-Blanche, histoire de défendre l'égalité de paix entre hommes et femmes, des inégalités de traitement donc, et elle appelle à agir sans attendre pour combler les différences encore criantes à tous les niveaux de revenus. « J'ai été dévaluée parce que je suis femme », a lancé la joueuse après avoir rencontré le président Joe Biden, un allié avec lequel elle a affiché sa complicité. « Il s'agit de justice, il s'agit d'être fidèle à nos valeurs », a souligné de son côté Joe Biden. « Je vous remercie car vous êtes un exemple ». Deux fois championne du monde avec les États-Unis, l'attaquante réclame avec toute l'équipe féminine de football d'être payée autant que leurs homologues masculins, largement mieux rémunérés malgré des résultats sportifs inférieurs.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les médias burundais en exil à Kigali au Rwanda, RPA, Izamba et Radio-Télévision Renaissance ont annoncé à leurs auditeurs l'interruption de leurs émissions à partir de ce 24 mars 2021. Ces médias se sont installés à Kigali en juillet 2015, après le coup d'État manqué contre le président d'alors, Pierre Nkurunziza. Eric Manirakiza a joint à Kigali le directeur général de la radio-télévision Renaissance, Innocent Mouosi.
Bon, ce qui s'est passé, c'est que depuis le mois d'octobre, nous avions été avertis par les autorités rwandaises qui disaient de prendre nos dispositions pour ne plus émettre à partir du Rwanda, suite aux demandes du gouvernement burundais dans le processus de dialogue politique dans lequel les deux États sont engagés. Et donc, nous avons été informés par les autorités, justement, que nous ne pourrions plus continuer à travailler à partir d'ici. Cela dans, justement, cette logique d'essayer d'avoir un dialogue qui permette de réduire ou d'enlever les tensions qui existent entre les deux pays et de resécuriser le pays et les citoyens. Donc, nous n'avons pas 15 options. Dans ce cas-là, nous avons de commun accord décidé d'arrêter et de prendre le temps de nous réorganiser autrement, sans être source de problèmes entre le Rwanda et le Burundi.
Certains leaders sont sous mandat d'arrêt. Est-ce que ceux qui se trouvent, par exemple, au Rwanda actuellement pourraient se retrouver demain au Burundi?
Cette menace-là n'existe pas.
On vous a rassuré?
Oui, nous avons été rassurés que là n'est pas la question. Les autorités rwandaises nous ont rassurés que là n'est pas la question. Mais par contre, que continuer à émettre, même si nous n'émettons pas sur la voie d'émetteurs, etc., que nous travaillons sur Internet, mais que de toutes les façons, il était évident, nous ne sommes d'ailleurs jamais cachés, que nous travaillons à partir d'ici. Donc, il fallait mettre fin à cela. Ce qui est mis en application depuis justement cette mi-journée.
On sait que le président burundais, dernièrement, a appelé le Conseil national de la communication à assainir ses relations avec les médias. Est-ce que cela veut dire que vous pourriez retourner au Burundi pour continuer à travailler?
Vous savez, nous voudrions tous retourner au Burundi, mais c'est impossible. C'est impossible parce que nous avons fui la mort. Il y a des gens qui essaient de nous tuer. Nous avons été attaqués à la grenade, à la mitrailleuse. Nos stations ont été mises à feu. Ils sont toujours occupés par des policiers, encore aujourd'hui. Et donc, la volonté de nous détruire est toujours évidente. Et les gens qui ont... Il y a des milliers de Burundais qui ont été tués. Il y a des dizaines de milliers, ou des centaines même de milliers qui ont pris le chemin de l'exil. Il y a des centaines de disparitions forcées. Il y a des milliers de prisonniers d'opinion. Ce n'est pas un pays dans lequel nous pouvons retourner, d'autant plus que les personnes que nous avons fuies à l'époque sont devenues encore plus puissantes aujourd'hui dans le gouvernement d'aujourd'hui. Quelle que soit la volonté affichée par le président Ndayishimiye, les faits disent le contraire. Les pires extrémistes sont devenus encore plus puissants aujourd'hui. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable de retourner au Burundi. Disons, l'appel au dialogue, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y ait un dialogue qui porte sur toutes les questions qui sont à la base de la crise burundaise, oui, mais nous savons très bien, et tout le monde sait très bien, qu'il est impossible que les deux médias travaillent librement dans le Burundi actuel tel qu'il est configuré politiquement, sans que cela soit passé par un dialogue qui inclut tous les acteurs de la vie publique burundaise. Donc c'est impossible de retourner au Burundi dans la situation actuelle.
Innocent Mouosi, directeur général de la radio-télévision Renaissance. Au Cameroun, vive critique contre le principal centre de prise en charge des patients atteints de Covid-19 situé à l'ancien Orca à Yaoundé. Les proches des malades dénoncent la qualité du service et qualifient ce centre fonctionnel depuis juin 2020 de véritable mouroir. Ce que contestent les autorités sanitaires et les responsables de ce centre. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Depuis quelques semaines, le centre spécialisé de prise en charge des patients atteints de Covid-19 est pris d'assaut dès les premières heures de la journée. À l'extérieur, des familles campent dans l'attente des nouvelles de leurs proches admis en hospitalisation.
Depuis février, on a une remontée. cavité gastrique du nombre de patients.
Docteur Christine Abessolo est infectiologue et directrice adjointe du centre, dont la capacité d'accueil est de 283 lits.
Au mois de février, nous avons reçu 450 patients. L'âge des patients varie entre 6 mois plus de 90 ans. La prise en charge est globale et gratuite.
600 sont entrés en moyenne, combien ressortent guéris?
Disons que 600 sont entrés, 95 ressortent guéris.
En février dernier, 25 patients sont décédés ici en une semaine. Durant le mois en cours, la courbe ne s'est point inversée. Les visiteurs sont témoins des mises en bière en série.
Vous voyez que les corps qui ne font que sortir là, je ne vis que dans la peur. Là.
On fait des levées, c'est tout ce que moi je constate.
À sa mise en fonction, le centre de prise en charge, dit ancien Orga, a été érigé en une annexe de l'hôpital central de Yaoundé, avec pour vocation accueillir les patients du Covid-19 de la région du centre. Aujourd'hui, des malades d'autres régions du Cameroun y arrivent, ce qui a augmenté le volume de travail.
Le personnel est en train de vivre un burn-out.
La journaliste blogueuse Olive Atangana a mené une enquête dans ce centre.
Au cas par exemple, le centre est saturé. Les médecins n'arrivent plus à tenir. Ils sont fatigués, ils n'ont pas réellement d'équipement. Certes, le gouvernement a essayé de mettre à leur disposition du matériel, mais aujourd'hui ce n'est plus vraiment ça. Ils n'ont pas de prime Covid.
À ce propos, le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, relativise.
La première motivation pour un fonctionnaire n'est pas qu'un gain financier, c'est la reconnaissance de son travail. Et ça, le président de la République l'a bien servi. À deux reprises, il a félicité le personnel de santé. Le président de la République a prorogé l'âge de la retraite. Nous avons également essayé de donner une motivation financière dans la mesure du possible, parce que nous savons quel est le sacrifice qu'ils font pour sauver les vies des Camerounais.
Des assurances qui n'estompent pas les craintes des familles.
Mon papa qui est là depuis dimanche. Le pire.
Cette dame est préoccupée par la situation de son patient. Elle se livre aux médias pour dénoncer.
C'est un cercle vicieux. Est-ce que votre malade est vraiment prise en charge? Vous n'en savez rien du tout.
Selon Dr Bonaventure Rolland, directeur du centre spécialisé de prise en charge des patients de Covid-19, au lieu dit ancien Orca, sur plus de 1600 cas hospitalisés, seuls 133 décès ont été enregistrés à la date du 8 mars dernier. Le directeur soutient que le centre doté du meilleur plateau technique de la ville est bel et bien à la hauteur des attentes des populations. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous au menu de Washington Forum ce jeudi. La présidentielle au Congo-Brazzaville, la réélection du président sortant Denis Sassou Nguesso, 36 ans au pouvoir, s'annonce déjà comme un plébiscite. D'après les premières tendances, le scrutin a été endeuillé par la mort de son principal rival, l'opposant Guy Brice Parfait Colella, décédé des suites de la maladie Covid-19. Était-ce une élection gagnée d'avance? L'opposition et la société civiles ont-elles voix au chapitre? La jeunesse congolaise est-elle en quête de changement? Vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le 24 mars est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En RDC, un pays déjà touché par les épidémies de fièvre Ebola et de Covid-19, le Programme national contre la tuberculose a souligné sa volonté de contribuer à l'éradication de cette maladie d'ici 2030. Précision de notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba.
La lutte contre la tuberculose en cette année 2021 est question de rattraper les temps perdus pour l'éradication de cette maladie à travers le monde. En RDC, toutes les batteries sont mises en marche pour se conformer à la thématique choisie qui est « l'horloge tourne ». Explique les chefs des divisions type VIH au programme de lutte contre la tuberculose, les docteurs Fondakaro Teto.
Donc l'horloge tourne veut tout simplement dire qu'il est temps que nous puissions nous mettre dans le temps pour rattraper les retards et arriver à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Comme nous l'avons fixé sur le plan mondial.
Bien que son traitement soit accessible, cette maladie demeure encore une fatalité pour certains patients Ngoy et médecins à l'hôpital général de Makala, l'une des communes de Kinshasa.
Jusqu'à preuve du contraire, la tuberculose est très mal acceptée dans la population. On pense à une fatalité et c'est souvent un counseling qui doit bien se passer pour que la malade ou les malades acceptent son diagnostic.
Amputé grave, la tuberculose demeure pourtant guérissable, affirme le docteur Fondaka Roteto.
La tuberculose, c'est une maladie grave, comme vous le savez, mais aussi guérissable, puisqu'avec un traitement de 6 mois, et le traitement qui est gratuit, tout le monde a accès à ce traitement sur toute l'étendue du pays, puisque vous avez toutes les zones de santé sont couvertes par la prise en charge de la tuberculose, et donc dans toutes les provinces.
Guérissable, oui, à condition qu'un suivi efficace soit mis en place, puisque certains malades ont du mal à s'y conformer. Docteur Ngoï.
Mais le suivi pose quand même un problème, ça c'est vrai, dans le sens que ce sont des malades que nous perdons un peu beaucoup plus souvent et qui nous reviennent avec un autre tableau, ou soit une résistance au traitement, ou quasiment des traitements mal conduits.
Une situation qui serait à la base de l'augmentation du nombre de cas de tuberculeux en RDC, confirme le docteur Fondaka Roteto.
L'évolution en République démocratique du Congo, nous sommes en train de monter en termes de nombre de cas notifiés. Depuis il y a de cela 10 ans, la courbe par rapport à la notification ne fait que monter. Donc ça veut dire qu'il y a encore des cas, notamment ici à Kinshasa et dans les grandes villes comme Lubumbashi et autres.
Il est donc temps que les organisations de lutte contre la tuberculose en RDC intensifient la sensibilisation afin de contribuer efficacement à cette lutte. De Kinshasa, Val de Simoyamba, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a exhorté le Congrès à adopter des lois plus strictes sur les armes à feu à la suite de 2 nouvelles fusillades de masse en Géorgie et au Colorado. Patsy Vidakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Suite à la dernière tuerie dans un supermarché de Boulder dans le Colorado, quelques jours après des fusillades meurtrières contre 3 salons de massage à Atlanta en Géorgie, les drapeaux sont à nouveau en berne à la Maison-Blanche. Mardi, le président Joe Biden a exhorté le Congrès à agir immédiatement pour avoir des lois plus strictes sur les armes à feu.
Nous pouvons à nouveau interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à grande capacité dans ce pays.
L'interdiction de fusils d'assaut pendant 10 ans a été adoptée par le Congrès en 1994 et a expiré en 2004. Elle n'a jamais été renouvelée en raison de la forte opposition républicaine. Une division sur la question persiste, comme en témoigne une audience du Sénat mardi sous le contrôle des armes à feu. Ted Cruz, sénateur républicain du Texas.
Ce qui se passe dans cette commission après chaque fusillade de masse, c'est que les démocrates proposent de retirer les armes aux citoyens respectés des lois parce que c'est leur objectif politique.
Chuck Grassley, un autre sénateur républicain, va dans le même sens.
Comme beaucoup d'Américains, j'ai chéri mon droit de porter des armes. Dans le dialogue sur le contrôle des armes à feu, nous considérons rarement combien d'Américains sont unis dans la défense et la jouissance de ce droit.
Joe Biden a également exhorté le Sénat à adopter des projets de loi visant à élargir la vérification des antécédents des propriétaires d'armes à feu, que les démocrates ont récemment adopté à la Chambre des représentants. Richard Blumenthal, sénateur démocrate du Connecticut.
Large vérification des antécédents, loi sur les risques extrêmes pour prévenir les suicides, les fusillades de masse et les crimes de haine. Protection des victimes de violences domestiques et des normes sécurisées de stockage. Ces types de mesures sont à notre portée.
Alors que Biden a fait campagne pour mettre fin à la violence armée, on ne sait pas à quel point il pourra s'engager sur la question alors qu'il a d'autres priorités législatives comme son plan d'infrastructure de 3 milliards de dollars et une réforme de l'immigration. Les précédents présidents démocrates ont essayé et échoué, y compris Barack Obama, après une autre fusillade en 2012 qui avait fait 27 morts, dont 20 enfants. Le droit de posséder des armes à feu est protégé par le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Il a été toujours difficile d'adopter des lois pour restreindre ou limiter ce droit. Daryl Miller enseigne le droit à l'université Duke.
Si quelque chose doit réussir, je pense que cela va nécessiter des vérifications approfondies des antécédents pour le port des armes à feu, éliminant les échappatoires basées sur Internet ou d'autres types d'échappatoires qui existent dans le système actuel de vérification des antécédents.
Les Américains possèdent environ 45% de toutes les armes à feu civiles dans le monde. Aux États-Unis, il y a plus d'armes à feu que d'habitants, environ 120 armes pour 100 habitants. D'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, le pays a aussi le taux le plus élevé de décès par arme à feu, soit près de 40 000 en 2019.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute de VOA.